on a pensé, on a réalisé en même temps que Dieu parle. Et agit et se manifeste. Parce qu'on a qualifié de révélation naturelle. L'expression elle-même, la révélation naturelle, dit un peu de quoi il s'agit. Il s'agit de la découverte et de la rencontre de Dieu par l'homme dans tout ce qui l'entoure et conditionne sa vie. Par la découverte du cadre de sa propre vie. L'univers créé peut être un signe fondamental et permanent de Dieu, tandis une révélation. Là, vous avez là l'univers créé, pas uniquement la nature. Mais tout l'être humain. Encore une fois, pas seulement les couchers du soleil, mais l'art, les valeurs, voilà. Un peu comme on dit maintenant du patrimoine, le patrimoine, la cathédrale, je ne sais pas quoi, mais le patrimoine aussi, ça peut être. Les paysages de tel endroit ou un patrimoine immatériel, par exemple. C'est un peu la mission. Donc, tout ce qui fait partie de la vie de l'homme. Quand on dit que tout cela peut être révélation de Dieu, mais ce n'est pas obligatoire qu'elle soit, et encore moins pour tout le monde. C'est une possibilité. Et pour tout homme, c'est-à-dire pour tout homme, évidemment, c'est une possibilité universelle qui n'est pas réservée, je ne sais pas moi, aux moines, je ne sais pas quoi. Non, non. Tout le monde a accès à cette révélation, disons, universelle. Cette vision de la révélation naturelle est déjà présente dans la Bible de deux façons. Tout d'abord, le fait qu'un certain nombre de considérations, de conceptions, de concepts ou de catégories du monde et du religieux qui ne sont pas bibliques, ont été adaptés et adoptés, comment je vais pas dire, adoptés et ensuite adaptés au monde biblique. Et ils se trouvent dans le texte biblique. Bon, ce dont on a parlé déjà, les institutions, par exemple, ou des théologies de peuples voisins, comme par exemple le célèbre psaume 104, qui est pas une copie, mais une variante, disons, du célèbre hymne au dieu soleil, Aton, fait par le pharaon Akhenaton, qui est donc une hymne qui date de 1300 ou un peu plus. Et le psaume 104, qui est très très beau d'ailleurs, c'est une, je ne dirais pas c'est une remake, mais ça participe de cette ambiance, de ces coordonnées. Mais deuxième façon dont la Bible fonctionne dans cette histoire de la révélation naturelle, c'est que la question elle-même est posée telle qu'elle dans certains textes de la Bible. C'est le cas dans le livre de la sagesse de Salomon. Voilà. La sagesse de Salomon, c'est un livre qui date des années 50 avant Jésus-Christ. Donc c'est le plus récent, le plus jeune de la collection. Elle fait partie du canon de l'Église romaine et de l'Église orthodoxe, mais pas protestante, parce que le protestant, comme il est écrit en grec, et ils ont suivi le critère juif en grec, merci. Il a été écrit à Alexandrie, en Égypte, par un auteur juif, mais très préoccupé par le dialogue avec les Grecs. Et surtout, avec la manière de penser des Grecs. Évidemment, on n'était pas celle du monde sémite et plus concrètement des Juifs. En fait, en faisant cette œuvre, il voulait donner aux Grecs de quoi comprendre la foi d'Israël, en traduisant la foi d'Israël dans les catégories philosophiques grecques. Ça, ils pouvaient comprendre. Et il voulait donner aux Juifs vivant à Alexandrie, qui était quand même une communauté de 100 000 juifs, 4 fois plus de juifs à Alexandrie qu'à Jérusalem. C'est pas rien. Il voulait donc donner aux juifs qui vivaient à Alexandrie non seulement de quoi parler avec les Grecs, de leur foi, mais de comprendre eux-mêmes leur propre foi dans des catégories qui étaient devenues habituelles. Par le fait qu'ils étaient nés à Alexandrie, ou je ne sais pas, de la première génération, de la deuxième, ils étaient immergés dans ce monde avec toutes ces catégories. Donc, cette clé d'intelligence pour les Grecs, mais aussi pour les Juifs. Ça pouvait être, et ça devait être, un lieu de rencontre. L'auteur...
Pourquoi vous appelez ça une révélation, le livre de la sagesse? Je ne comprends pas bien.
Pourquoi?
Ce n'est pas une révélation de Dieu.
Attendez, mais pourquoi appelez-vous le livre de l'Exode, Révélation?
Au sens général, toute la Bible est révélation.
Ah ben oui.
Mais là, vous avez sélectionné deux aspects, plus particulièrement, pour parler de révélation historique.
C'est-à-dire, il y a deux aspects il y a trois manières. Enfin, oui. La révélation historique, c'est ce que les chrétiens disent, Dieu s'est révélé historiquement dans une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation historique. Alors, deuxième type de révélation, Dieu parle et a parlé aussi par la nature, par la création, et tout ce qui touche l'homme. Et dans cette perspective, un des livres qui traite cette question de la révélation dans et par la nature, c'est le livre de la sagesse. C'est ça le...
historique et naturelle, en fait.
Oui. Il est évident que tous les livres ont une dimension, un contexte historique. Donc, là, c'est tout à fait le temps. Mais là, ce qui m'intéresse dans le livre de la sagesse, c'est qu'effectivement, ce livre traite la question de la révélation naturelle. C'est le premier qui le fait explicitement. Et, de ce point de vue, nous avons... c'est dans le livre de la sagesse, chapitre 13, versets 1 à 9. Que cette question va se poser de façon très très claire. L'auteur de ces livres de la sagesse, c'est débat entre deux choses. D'une part, pour lui, il est clair que la révélation, premièrement et prioritairement, vient par Moïse, justement. Moïse, c'est le canal de la révélation de l'Ancien Testament. Très bien. Mais en même temps, il reconnaît que les autres gens, même ces Grecs qu'on voit tous les jours, ils n'ont pas quand même tout à fait exclu, tout à fait out de la connaissance de Dieu. Alors, il essaie d'articuler les deux choses. Et c'est ça le point compliqué. Mais nous aussi. On signale que depuis qu'on entre dans l'interreligieux, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est du plurireligieux. Du couscous, on fait de la tartiflette, etc. Et puis, très bien. Mais l'interreligieux, là, on ne fait que bisous, et c'est très bien. Mais on n'aborde pas les questions de fond. Pour l'instant, il n'y a plus de questions que de réponses. Enfin, bon. Alors, le dilemme de ces livres, donc de la sagesse, c'est que d'une part, il va expliquer et développer à fond à quel point c'est la révélation de Dieu, c'est par Moïse et par l'histoire du peuple d'Israël. Mais en même temps, il sait que les gens peuvent avoir un accès à Dieu par les œuvres de Dieu. Et le texte donc, dont je vous ai parlé, que vous voulez mettre là, voilà. Ouais, je pense que pour vous, au fond, ça doit être trop brouillardeux, non ?
Un peu, oui.
Un peu.
Je peux même pas prendre les notes.
Non, mais je parle de la bouillardise de la vision de l'écran. Mais vous allez comprendre très vite. Je lis ces textes, hein, tels quels. 20 sont tous ceux-là, des hommes par nature, évidemment, chez qui l'ignorance des dieux s'est installée. À partir de biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est, pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Mais c'est le feu, les souffles ou l'air léger, le cycle des astres ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel réglant le cours du monde qu'ils ont pris pour des dieux. Sont-ils séduits par leur beauté quand ils les considèrent comme des dieux ? Qu'ils sachent combien le maître de ces choses leur est supérieur. car c'est lui qui est à l'origine de la beauté, les a créés. Sont-ils frappés par leur puissance et leur efficacité ? Bien, qu'ils comprennent à partir de ces réalités combien est plus puissant celui qui les a faites. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur créateur. Cependant, ces hommes méritent un moindre blâme. On a dit qu'ils sont vains, qu'ils sont nuls, mais enfin voilà. Mais, oui, mais quand même, un moindre blâme. Peut-être ne s'égarent-ils que dans leur façon de chercher Dieu et de vouloir trouver. Ils ont trompé de méthode, comme on dirait. Plongés dans ses œuvres, ils scrutent et ils cèdent alors à l'apparence. Car il est beau, le spectacle du monde. Toutefois, même eux ne sont pas excusables pour autant. Ils sont nuls, mais pas tout à fait nuls. Mais enfin, quand même, ils sont nuls. Enfin, bref. S'ils sont devenus assez savants pour pouvoir conjecturer les cours éternels des choses, comment n'ont-ils pas découvert auparavant le maître de celles-ci ? C'est l'argument. C'est très simple. Enfin, les gens, à partir de la beauté, de l'art, de tout ce que vous voulez, ou de la grandeur de la mer terrifiante un jour des tempêtes, avec de vagues de 6 mètres, vous pouvez être frappé par la beauté ou par la puissance des machins et dire « Ah, mais ça, c'est ce qu'on a fait très souvent dans l'histoire. » On a adoré les beautés ou les puissances qu'on constatait, parce qu'on trouvait ça génial. Mais lui, il dit, mais enfin, quand même, c'est nul, parce que si ça, c'est beau et grandiose, combien même plus sera celui qui les a créés. Sauf qu'effectivement, lui, il part du principe qu'il y a un créateur de tout. Et à ce moment-là, bien évidemment. Mais les autres peuvent dire, je me barre là. Pour moi, ça suffit. Donc, mais cette volonté de voir dans la nature une sorte de révélation est quand même, comme je vous dis, extrêmement vieille. Et donc là, même dans la Bible, on a cette... Cette approche de la révélation par la nature, la révélation naturelle. Bon, analogie, donc, il dit, c'est par analogie. Il y a deux choses qui ont quelque chose en commun, mais à partir de là, on va extrapoler, si vous voulez, mais c'est là, effectivement. La beauté... des choses, etc. Dieu, a priori, il est quand même pas mal, il est beau, très bien. Donc, combien plus sera lui en beauté, en puissance, etc. Mais, encore une fois, ça suppose que celui qui tient un tel raisonnement reconnaît la présence de Dieu. Cette révélation naturelle, Saint Paul va la mettre aussi en évidence. C'est dans l'Épître aux Romains. Et c'est le même raisonnement que dans le livre de la Sagesse. Et il va utiliser ça aussi dans le célèbre texte des Actes des Apôtres. Dans le discours qu'il va faire devant les gens d'Athènes dans l'Areopage. Bon, là, comme vous savez, c'était assez... Il y avait des statues, des représentations de tous les dieux possibles et imaginaires, mais au cas où, il y avait aussi un autel dont le titre était « Aux dieux inconnus ». Au cas où il aurait oublié de la liste, ne pas se fâcher avec lui, ben, ils avaient mis ça. Alors Paul serait allé là, discuter, parce que c'était les lieux de la parlotte, hein, c'était le, les philosophes, tous les tribuns de tout poil, ils y allaient pour sortir et vendre leurs marchandises. Donc Paul fait pareil. Il va commencer à faire tout un discours sur les dieux inconnus, justement, qui a créé les ciels, la machin, qui a tout ça. Bon, la révélation naturelle, les Athéniens, ils sont tout à fait d'accord. Ils disent oui. Sauf qu'à un moment, Paul va dire, mais la révélation historique, c'est Jésus de Nazareth mort sur une croix et ressuscité. Les autres, ils écoutent. Pour la dernière partie, il faut que tu revoies la copie. Mais là, non. Et ils ont laissé tomber. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, comme on avait dit à partir ou à propos de la sagesse est un terrain de rencontre avec les autres, parce que tout le monde se pose des questions sur la mort. Ou sur le travail, ou sur l'argent, il ne fallait pas attendre un gong pour savoir que l'argent devient putride assez vite. Et bon, l'argent, c'est une question de sagesse depuis tout le temps. Donc, sur ce point, on a un terrain et une matière d'entente, ou un droit commun. Et la révélation naturelle peut être aussi un point de rencontre. Cette année, on va avoir en février, donc c'est déjà assez vite, la session interreligieuse du CIF. Et cette année, c'est sur l'hindouisme. Bon. On est plus branché sur le bouddhisme, enfin branché dans le sens. On a en Occident un bouddhisme des supermarchés, mais enfin bon. Mais l'hindouisme, que dalle. Quand on a essayé de monter cette session, on a bien vite fait comprendre que. À Paris, il y en avait une personne qui pouvait faire ça correctement. Vous voyez, c'est quand même... Et en plus, comme vous direz, c'est une femme. Donc, on ne s'en sort pas. Mais avec les hindouistes, par exemple, je pense qu'on peut avoir un certain point de rencontre sur la question de la nature. Avec les bouddhistes aussi. Avec l'islam, pas du tout, je pense. Sauf sur les chameaux, mais enfin, vraiment, c'est un peu court. Donc, la question, le problème de la révélation naturelle, c'est que pour nous chrétiens, c'est vrai, c'est bon, d'accord ? Mais c'est un peu court, parce que nous sommes déjà, en tout cas, nous sommes dans la question de la révélation historique. Pour nous, la révélation naturelle, d'accord ? On peut prendre des pauses et avoir des extases en contemplant, je ne sais pas si vous avez contemplé cette année au mois de juillet, La lune descend. C'est célèbre, comment on s'appelle ça, une éclipse de la lune complète, et qui est devenue rouge, peu à peu. Nous, on était avec un groupe du CIF, justement, à Jérusalem, et de la terrasse de notre foyer, on a regardé ça. Et c'était assez impressionnant. Bon, ça, effectivement, on peut... Bon, personnellement, ça ne m'a pas fait tomber en extase. Mais enfin, on peut comprendre que... Mais pour nous, d'accord, mais c'est pas assez. Dernière révélation. C'est la révélation finale. Par révélation finale, on entend finale au sens eschatologique. Eschatologique, c'est un nom qui peut paraître un peu barbare. D'ailleurs, ce terme a été inventé au XVIIIe siècle. Mais, bon. Traditionnellement, dans la théologie chrétienne, il y avait un traité, comme il y avait un traité sur Dieu, sur la Trinité, un traité sur le Christ, un traité sur les vertus, machin, tout ce que vous voulez. Il y avait un traité sur les fins dernières. Et avec les quatre mots tabous, mort, jugement, enfer et gloire. Donc les quatre, bon. Pour la mort, bah, tout le monde y passe. Le jugement, s'il y en a aussi, tout le monde passerait. Alors pour le reste, c'est... au choix, si on peut dire. Et c'était un traité de la théologie tout à fait respectable et important. Et il y avait des théologiens qui étaient des spécialistes de ça. Il y a un lieu du côté, pas en Normandie, mais enfin dans l'Eure, je crois, qui est un sanctuaire consacré aux âmes du purgatoire.
Montligion.
Bon, ça c'est vraiment exactement les gens des lieux qui relèvent de cette logiciel de fin dernière. Bon. Alors, c'était un sous-chapitre. Après le jugement, en fonction de la sentence, vous aviez avec sursis ou pas sursis, amende ou pas amende, donc purgatoire, enfin bref. Mais c'était tellement prégnant qu'il y a quand même une congrégation extrêmement importante, féminine, en France, les auxiliatrices du purgatoire. D'ailleurs, ils ont eu quand même une phase un peu délicate, les sœurs, parce que après le concile, auxiliatrices du purgatoire, ça a foutu mal. Et là, pendant 30 ans, il se disait auxiliatrice, sans plus. Mais depuis quelques années, ils ont retrouvé leur identité, comme on dirait. Et maintenant, ils ont redécouvert l'appellation AOC complète. Auxiliatrice du purgatoire. Bon, je ne sais pas comment ils font, mais bon. Du point de vue biblique, cette histoire d'eschatologie est différente. Là, point de vue biblique, on ne s'occupe pas ni du purgatoire, ni du jugement, ni de l'enfer, etc. Eschatologie veut dire quelque chose d'autre. Il faut comprendre ce terme eschatologie de la façon suivante. Il s'agit d'une action future et définitive des dieux en faveur de son peuple. Si vous laissez dans la perspective, dans le prolongement de l'espérance, l'espérance, on l'a bien vu, avec le Messie, le prophète, etc. Dans cette perspective, l'eschatologie, c'est l'espérance en une action future et définitive, les deux conditions, sinon ce n'est pas eschatologique. L'action donc future et définitive des dieux en faveur de son peuple qui prend des figures assez variées. Vous avez différents scénarios. Je me souviens très bien, par exemple, une fois, pendant un moment, j'avais travaillé l'Apocalypse des Sophonies. Un texte apocalyptique. Moi, j'étais assez scié parce que dans cette apocalypse, vous faisiez une description. C'est une apocalypse, il y a plusieurs sortes, mais là, c'est une apocalypse de voyage. C'est-à-dire que les voyants, celui qui contemple tout ça, il est conduit en voyage dans des lieux où les agences n'y vont jamais. Elle contemple les cieux, les cieux, avec les horaires pour les déjeuners et tout. C'était extrêmement précis. Mais en fait, c'était, je ne sais pas si historiquement, les purgatoires a été pompé de ces apocalypses, mais en tout cas, c'était une sorte de description du purgatoire tel que je l'avais eu quand j'étais petit. Mais je, avec horaire et tout, hein, tout, c'était... Bon, comment ? Mais dans le prolongement de l'espérance, apparaît donc l'eschatologie, c'est une espérance dans une action future, évidemment, et définitive. Après ça, c'est fini, terminé. Du point de vue chrétien, c'est ça qui est très important. Du point de vue chrétien, cette action future et définitive a déjà eu lieu en Jésus-Christ, avec la mort et la résurrection du Christ. Autrement dit, la révélation finale a déjà eu lieu. Et comme dit l'auteur Peter Blau, qui dit, de ce point de vue eschatologique, Dieu a fait déjà 90% de son boulot, du boulot qui lui revient, avec Jésus-Christ, avec la mort et la résurrection de Jésus. Cette action définitive et future qu'on attendait des dieux, il a déjà fait à 90%. C'est pour ça que là, elle n'est pas complète encore, dans le sens que nous ne sommes pas encore en communion parfaite, ni entre nous, ni avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a la célèbre phrase... L'eschatologie, c'est déjà là, mais pas encore. Bon, quand on sort ça dans ce sermon, ça fait bien. Et les gens disent, qu'est-ce qu'ils savent, ces mecs. Mais Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'eschatologie, l'action définitive de Dieu est déjà là en Jésus-Christ, mais pas encore dans la mesure où nous ne sommes pas encore complètement transformés. Et c'est ce qui manque de l'action de Dieu, c'est les 10% qui manquent, si on peut dire. Les chrétiens, donc, sont sûrs de la réalisation de cette révélation, de cette révélation finale en Christ. C'est déjà là. Mais ils attendent son déploiement complet, pas encore. Donc on est dans cette tension du déjà là, mais pas encore. On attend donc son accomplissement, son achèvement, le rassemblement de toute l'humanité dans le Christ. Ça sera là, effectivement. Ça, c'est l'eschatologie, ça, c'est la révélation finale. Et comme les choses ne sont jamais faites par hasard, après-demain, c'est la fête du Christ-Roi. Bon, quand la fête a été faite en 1920 ou par là, ou 25, c'était aussi une façon d'exister pour les catholiques romains. Mais en fait, c'est vrai que ça nous donne la perspective, effectivement, de l'accomplissement. Le fait que Jésus soit considéré comme roi, donc comme Messie, et qu'il soit une figure de l'espérance, mais ça nous donne de quoi, et par le partage du repas du Seigneur, etc., on entre dans cette dynamique de la réalisation et de l'accomplissement. Comme dit Paul, jusqu'à ce que tout soit accompli en Christ. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a une question ou l'autre? Il y a encore une minute ou deux, au cas où. Oui.
Quand vous disiez que c'est fait à 90%,
oui.
En fait, est-ce qu'on ne peut pas dire d'une autre manière que pour Dieu, c'est fait?
Oui.
Parce que pour lui, la temporalité n'existe pas.
Oui.
Et que nous, tant qu'on est dans la temporalité, on a des choses
encore à accomplir. Oui, tout à fait. Et il y a des choses qui doivent s'accomplir à nous aussi.
C'est ça, bien sûr.
Tout à fait. Oui. Voilà, nous on est en manque d'accomplissement. Mais on sait où l'on va et surtout d'où l'on vient. Non, ça, c'est... Bon, écoutez. Bon après-midi, bonne soirée.
Merci.
Et bon courage.
À lundi.
Thank you.